RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Bonjour à tous, bienvenue dans Motors, bonne fête. Salut Jean Lecroix.
Eh ben salut Louis Amar, bonjour à tous.
On est ensemble jusqu'à 14h pour revenir sur les meilleurs moments de l'année.
On va donc commencer par la Formule 1 et en l'occurrence le 5e titre de champion du monde de Lewis Hamilton. Et oui, déjà, qui fait de lui l'égal de Juan Manuel Fangio. On va parler aussi de l'avenir des pilotes français, des principaux transferts. Il y en a quand même eu quelques-uns et d'importants, des pilotes qui partent à la retraite, notamment Fernando Alonso. Et puis les nouveaux règlements, notamment aérodynamiques pour 2019. C'est donc parti pour les meilleurs moments de Motors.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Jean-Luc, quel bilan tu tires de l'année qui s'achève? Est-ce que tu as aimé cette saison?
Oui, non. Comme toujours. Alors oui, parce que j'ai naturellement apprécié au plus haut niveau cet affrontement entre deux des plus grands pilotes de la Formule 1, quoi qu'il arrive, Lewis Hamilton, qui n'était encore que 4 fois champion du monde, et Sébastien Vettel, qui l'était déjà, lui, depuis un moment. Donc j'avoue, comme l'an dernier, je dois être honnête, la première moitié de la saison m'a beaucoup plu, parce qu'il y avait de l'incertitude, on ne savait pas vraiment qui allait prendre le pas. Et puis, il y a eu un tournant, c'est clair, et Vettel n'a pas su malheureusement tenir ce cap. Il a été ultra dominé par Lewis Hamilton, qui a remporté 8 de ses 11 victoires de la saison, globalement dans la deuxième partie, hein, dans les 10 à 11 derniers Grands Prix de la saison. Donc, on a vu que Vettel était même perdu, on l'a vu commettre des erreurs auxquelles on ne doit pas s'attendre quand on est 4 fois champion du monde. Il l'a dit, il l'a reconnu, lui aussi, il veut vraiment retrouver des forces. Donc, c'est vrai que je suis ravi pour Hamilton, qui est encore une fois une légende et largement de la Formule 1. Il a égalé maintenant Juan Manuel Fangio, 73 victoires en Grand Prix, rends-toi compte. Il n'est plus, j'ose dire, qu'à 18 victoires du record qu'on pensait inaccessible de Michael Schumacher. Donc c'est bravo à Lewis Hamilton, qui est en plus, je pense, vraiment un type enthousiaste, passionné. Lucas l'a rappelé, ce final grandiose avec les donuts, tiens, tant mieux, il y a quelques années c'était interdit, les pilotes étaient sanctionnés. Moi, je suis ravi de voir ça. Écoute, il y avait de la jubilation dans l'air, donc c'est formidable.
Est-ce que, Jean-Luc, d'après toi, Hamilton s'est imposé parce qu'il a été le plus fort, parce qu'il est le plus fort de sa génération, ou parce que ses adversaires ont commis trop d'erreurs?
Ah, c'est clair qu'il est le plus fort de sa génération et de beaucoup. Et le martelage, le pilonnage, j'allais dire, psychologique, intelligent, parce que il n'a jamais utilisé de moyens détournés, enfin jamais. Là aussi, on sait pas ce qui se passe entre eux, mais bon, on a vu quand même la convivialité qui pouvait régner à partir du moment où Vettel a compris que c'était fini pour lui. Et pourtant, Vettel, il était vexé comme tout d'être dominé. Donc je pense que Hamilton a gagné parce que c'est le plus fort dans tous les compartiments du jeu, parce qu'il n'a pas toujours piloté la meilleure monoplace du plateau, loin s'en faut. Et quand Vettel avait, lui, la meilleure monoplace du plateau, soit lui, soit son équipe ont commis des petites erreurs, et donc forcément le meilleur triomphe aussi, parce que les autres se prennent les pieds dans le tapis.
Lucas, il y a eu cette semaine des premiers essais, à peine la saison était terminée que la suivante s'ouvrait, des premiers essais à Abu Dhabi, quels en ont été les résultats?
Est-ce que c'est un bon présage pour Charles Leclerc, qui a mis sa monoplace tout en haut, puisqu'il a fait, il a réalisé tout simplement le meilleur temps devant Sébastien Vettel? Alors après, il faut toujours relativiser, on ne sait jamais vraiment les quantités d'essence embarquées, sur quelle stratégie les équipes étaient engagées. Est-ce que c'était les longs relais, est-ce que c'était des relais un petit peu plus courts pour aller chercher de la vitesse de pointe réellement? Donc c'est difficile, mais en tout cas, il s'est bien acclimaté puisqu'il a signé le meilleur temps devant Sébastien Vettel. Vettel qui a commis une petite erreur, qui a endommagé un petit peu sa monoplace. Alors est-ce que c'est le début de la saison 2019 pour Vettel, ou est-ce que c'est la fin de saison 2018?
Ah bah tiens, ça, ce genre de questions, on va la refiler à Jean-Luc.
Vaut peut-être mieux penser que c'est la fin de la saison 2018.
Jean-Luc, ton avis là-dessus?
Ah bah oui, là vous me mettez au pied du mur ou de la grille de départ. Eh ben je crains que ce soit la continuation. Voilà, je vais bien m'en sortir. Et la continuité. Écoute, c'est excellent pour Charles Leclerc, hein, puisque Lucas vient de le rappeler. Écoute, depuis le temps, à chaque fois j'ai des scrupules, même tellement à m'émerveiller de son talent, parce que je me dis qu'effectivement, bon, la pression il l'a, hein, naturellement, donc il faut pas en faire trop. Mais écoute, c'est formidable. Il avait déjà été en tête d'une séance d'essai privé lorsqu'il avait pris le volant de la Ferrari Paris il y a déjà pas mal de temps, c'était en Hongrie. Donc là, après 135 tours, une 36-450, il colle pratiquement 4 dixièmes à Vettel, certes, la veille. On sait jamais exactement comment se trouve, dans quel état se trouve la piste. Et puis, on sait bien que ces tests organisés par Pirelli avaient pour but de confronter les pneumatiques 2018 aux enveloppes 2019. Donc il faut toujours tout relativiser. Il n'empêche, avoir Leclerc devant Gasly lors de la deuxième journée d'essai, c'est quand même formidable. Et puis Vettel et Bottas au premier rang, bon, on rappelle que tous les pilotes dans ces cas-là ne sont pas présents pour ces essais
bien
privés.
Sûr. Et on rappellera que Leclerc a réalisé son meilleur temps avec le composé pneumatique de 2019, alors que Vettel lui a signé le meilleur temps avec le composé pneumatique de 2018. Après, oui, Gasly de 5e devant Max Verstappen, a noté la 16e place de Robert Kubica, de la 17e de Kimi Raikkonen. Robert Kubica qui a un volant différent de celui de Lance Stroll. Lance Stroll a été annoncé, ça y est, chez Force India cette année, et on a comparé donc le volant de l'année dernière, enfin de 2018 pour Lance Stroll chez Williams, c'est celui de Robert Kubica, et les commandes sont un petit peu inversées pour s'adapter au handicap du Polonais.
Jean-Luc, quel est l'intérêt de ces essais de fin de saison? D'ailleurs, est-ce qu'il faut plus considérer ça comme des essais de fin de saison ou des essais d'avant saison?
Clairement, là, ce sont des essais d'avant-saison, puisque le but, on vient de le rappeler avec Lucas, c'est effectivement de tester les enveloppes Pirelli 2019, dont on espère, comme chaque année, évidemment, qu'elles permettront enfin aux pilotes d'attaquer. Alors, il faut pas être trop dur non plus avec nos amis de Pirelli, par parenthèse, qui ont signé jusqu'en 2023, donc on va continuer avec ces enveloppes. En tout cas, au niveau de la dénomination, on va arrêter de vous saouler avec les hyper soft, les ultra soft, les machins auxquels nous, on comprend plus rien au bout d'un moment. Pour chaque Grand Prix, il y aura les tendre, les moyens et les durs, on va la faire simple. Alors même si cette appellation ne recouvrira pas la même qualité de gomme, ça on s'en moque un peu, on va le laisser aux ultra spécialistes. Donc ça avait pour but d'évaluer les performances, et logiquement, et tu vois, je vais encore aller dans le sens de Charles Leclerc, et Lucas ne me contredira pas, les enveloppes 2019 sont censées être un poil moins rapides, peut-être parce que plus constantes, se dégradant moins vite. Donc tout ça est à vérifier naturellement, c'est pour ça qu'il faut les prendre avec des pincettes, mais clairement, pour répondre à ta question, oui, c'est une projection sur 2019.
Mais est-ce qu'ils veulent dire quelque chose, ces essais? Est-ce qu'il faut en tirer des conclusions?
Oui, et de toute façon, c'est toujours mieux d'être en haut de la feuille des temps qu'en bas, c'est une évidence. Ça démontre la capacité, le potentiel. Alors tu vas me dire, c'est un peu contradictoire, parce qu'on a effectivement les deux pilotes Ferrari, Vettel pour les temps du premier jour et Leclerc pour les temps du deuxième, qui devance en l'occurrence la Mercedes de Bottas au deuxième rang, et puis la Red Bull de Gasly au deuxième rang le deuxième jour. Alors on va dire que c'est contradictoire, puisque Mercedes est champion du monde, mais je rappelle, et ça va être très dur pour Valtteri Bottas, qui lui aussi, puisqu'on est aussi un petit peu dans les conclusions de l'année 2018, se remet en cause. Il n'a gagné aucun Grand Prix, Valtteri Bottas, même si on l'a privé, on le rappelle toujours, de la victoire en Russie, même s'il n'a pas eu de chance à d'autres endroits, en Azerbaïdjan, où on veut, n'empêche qu'il n'a pas gagné de Grand Prix. Donc il le sait lui-même, il l'a dit, c'est sa plus mauvaise saison depuis 2013, donc ça veut dire que peut-être avec Hamilton au volant de la Mercedes, tu me vois venir, c'est peut-être lui qui aurait été en haut de la feuille des temps en termes d'essai.
Peut-être. En tous les cas, Valtteri Bottas sera chez Mercedes encore la saison prochaine. On va revenir sur les principaux transferts avec toi, Lucas, dans une seconde. Avant cela, c'est vrai qu'il faut ajouter au manque de performance de Valtteri Bottas en termes de résultats, le fait qu'il pilotait clairement la meilleure voiture, et ce depuis de nombreuses années. Écoutez ces chiffres. Depuis 2014 et l'introduction des moteurs hybrides, Mercedes, sur 100 Grands Prix pile, c'est 74 victoires et 84 pole positions. Jean-Luc, qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne continue pas l'année prochaine ?
Alors écoute, il y a un certain nombre de changements techniques, aérodynamiques en l'occurrence, portant notamment sur l'aileron avant. On s'est assez insurgé, enfin je vais dire je me suis assez insurgé contre cet empilage parfois totalement ridicule de lamelles de carbone. On va simplifier tout ça, on va revenir peut-être en partie à des monoplaces un peu plus agréables à regarder déjà, et puis surtout un peu plus, parce que ça coûte évidemment des millions de dollars ce développement en soufflerie. Donc on va avoir une partie avant et puis une partie sur les côtés également, plus simplifié, tout ça pour retrouver la faculté pour les pilotes de dépasser plus facilement en ligne droite avec le DRS, mais de manière naturelle. Donc oui, on peut s'attendre en 2019 à une certaine redistribution des cartes. Maintenant, je ne vois véritablement pas comment Mercedes pourrait perdre la main malgré ces changements. Comme on le dit toujours, à moins qu'une écurie ait trouvé la solution miracle, et je rappelle évidemment, on le sait, l'équipe qui avait gagné avec Jenson Button, qui était l'ancienne équipe Honda. On sans, voilà, l'équipe Brown, exactement, qui a un carton plein, une année de participation en championnat du monde de Formule 1, et les titres de champion du monde, pilote et constructeur, parce qu'ils avaient trouvé le fameux diffuseur extraordinaire. Donc ça veut dire que ça peut arriver, c'est de la technique. Maintenant, plus ça va, plus la Formule 1 est encadrée, la solution miracle, on la voit pas toujours venir.
Lucas, est-ce que dans le paddock que tu as fréquenté les trois quarts de la saison quasiment, on en a marre de cette domination de Mercedes?
On aimerait bien forcément que l'écart soit redistribué. Maintenant, c'est très compliqué, c'est presque arithmétique. C'est-à-dire que plus vous avez de moyens, plus vous avez de chances de faire des tests, comme le disait Jean-Luc, en soufflerie, sur le moteur, etc., plus vous avez de chances que ça réussisse. Aujourd'hui, le plus gros budget, les deux plus gros budgets sont ceux de Mercedes et ceux de Ferrari. On parle de 1700 personnes impliquées dans le projet Formule 1. Vous prenez l'exemple de Renault. Renault, c'est 900 personnes. Donc, il y a un moment où le nombre et les moyens font aussi le côté compétitif. Une écurie comme Haas, c'est 700 personnes avec des budgets qui sont beaucoup plus réduits, même si on récupère ce que fait Ferrari, puisque on est un peu dans une sorte d'écurie bis. Mais maintenant, voilà, c'est comme le foot. Hein. Vous prenez le foot, plus vous avez de moyens, plus vous avez de chances de gagner. Regardez le PSG en France. La Formule 1 répond aussi à cette formule-là, malheureusement. Alors, de temps en temps, on a quelques surprises, mais c'est vrai que ça fait longtemps, ça fait combien de grands prix que ce n'est pas Ferrari, Red Bull ou Mercedes qui l'a emporté. C'est peut-être Kimi Raikkonen sur sa Lotus en 2013, il me semble, le dernier grand prix non remporté par les trois fantastiques.
Jean-Luc, en termes de calendrier, on en est où là, au jour où on se parle, de la confection des voitures pour la saison prochaine? Est-ce qu'elles sont livrées? Est-ce qu'elles sont terminées? Est-ce qu'elles existent déjà physiquement?
Non, elles ne sont pas terminées pour la bonne raison qu'effectivement les études et les développements sont en cours. On travaille autant qu'on peut le faire en soufflerie. Et puis, il y a quand même quelques changements dans les équipes qui sont en train de s'opérer. Donc, effectivement, les nouveaux venus, certains étaient soi-disant en train de s'occuper de leur jardin pendant quelques mois. Donc, ça officiellement en poste maintenant. Et puis ensuite, on doit subir les crash tests avec les nouvelles monoplaces terminées. Donc, pour le moment, on est toujours dans ce travail de développement qui va affecter une nouvelle fois l'aérodynamique et puis l'adaptation pneumatique dont nous venons de parler, puisque c'est la clé. Hein. Très clairement, j'utilise toujours cette paraphrase en disant il y a quelques centièmes de seconde dans les moteurs, quoi qu'en dise évidemment Red Bull avec Renault. Oui, ça évidemment que ça contribue au résultat, on va pas dire le contraire, mais moins qu'avant, l'aéro, eh bien ce sont plusieurs dixièmes de seconde, et dans les pneus, ce sont des secondes pleines que l'on trouve si on est capable d'exploiter ces pneumatiques. Donc le travail porte essentiellement sur le mariage entre guillemets, l'exploitation à la bonne température du châssis et des pneumatiques.
Lucas, on continue à débriefer la saison de F1 2018. On va surtout se tourner vers 2019. On parlera de nos Français dans quelques instants. Mais d'abord, rappelle-nous les principaux transferts en vue de la saison prochaine.
Ah, je pense que le principal, et on s'entendra là-dessus, c'est Daniel Ricciardo qui a quitté Red Bull pour rejoindre Renault. C'est un transfert surprise. C'est vrai que personne ne s'y attendait. La signature de la re-signature de chez de Daniel Ricciardo chez Red Bull se faisait attendre. Et à la surprise générale, il a décidé de rejoindre l'écurie aux losanges. Il sera aux côtés de Nico Hülkenberg. Il faudra voir. Ça va être intéressant, c'est un line-up, un duo de pilotes plutôt intéressant. Autre transfert, et celui-là peut-être que on l'attendait, on l'espérait en tout cas pour la belle histoire, c'est celui de Robert Kubica chez Williams, qui fait son grand retour après 8 ans d'absence, 8 ans après son très très grave accident en rallye. Robert Kubica donc qui va essayer de montrer qu'il est capable malgré son handicap, on le rappelle, hein, à la main droite, il conduit quasiment exclusivement avec la main gauche, il va essayer de montrer qu'il est encore compétitif. Et puis le dernier peut-être, voilà, il y avait quelques rumeurs et puis finalement ça s'est décidé assez tardivement. C'est Alexander Albon qui va rejoindre Toro Rosso, qui va donc faire ménage avec Daniil Kvyat, qui lui fait son énième retour en Formule 1. Donc voilà, on peut ajouter aussi George Russell, Lando Norris. En tout cas, ça a beaucoup bougé entre la saison 2018 et la saison 2019.
Jean-Luc, qu'est-ce que tu retiens de tous ces transferts-là?
Ben, l'arrivée des jeunes, Lucas vient de le dire, effectivement, le trio de tête de la Formule 2, qu'on suit toujours d'un œil très attentif, puisque ces épreuves se déroulent souvent en prémisse des Grands Prix de Formule 1, et là on a George Russell, on le savait depuis un moment, donc qui arrive effectivement, qui est un Britannique, et c'est important, puisque les Britanniques auront donc trois pilotes, avec Lando Norris, bien sûr, et Lewis Hamilton sur la grille 2019, donc à ce titre, c'est la première nation, puisque les Français vont perdre Esteban Ocon, on va en parler dans un instant, entre guillemets sur la grille en permanence. Donc je retiens l'arrivée de jeunes pilotes, et ça c'est toujours rafraîchissant. Maintenant, on l'a évoqué rapidement, je déplore comme tout le monde, je crois qu'il va beaucoup nous manquer, Fernando Alonso, même si malheureusement il a connu des saisons noires, on peut pas dire dramatiques en Formule 1 avec McLaren. Ça c'est effroyable, voir cette équipe sombrer pavillon bas, j'ose dire. Et puis on perd Van Dorn et Ericsson. Alors pour ça qu'il faut se garder malheureusement d'appréciation dithyrambique sur les jeunes pilotes, parce que ça dépend naturellement de l'écurie qu'on intègre, ça dépend de la monoplace dont on dispose, ça dépend de beaucoup de facteurs. Stoffel Van Dorn, je le rappelle, était le Phoenix. Voilà, il y a quelques saisons, et malheureusement, à cause de cette McLaren, on va dire infâme, il n'a pas réussi à montrer son talent. Il ne l'a pas perdu, son talent.
Mais ce qui est assez intéressant aussi, on dit souvent que la F1 est une affaire aussi d'opportunité, qu'il faut arriver au bon endroit au bon moment. Stoffel Van Dorn avait remporté le championnat F2, avait dû s'exiler au Japon avant de venir en Formule 1. Pierre Gasly a fait la même chose, et là on se rend compte qu'il y a trois pilotes de Formule 2 qui montent directement en Formule 1. Non pas qu'ils sont plus talentueux, mais c'est aussi une affaire d'opportunité. Il faut être au bon endroit au bon moment, c'est ça aussi la F1. Et cette année, en tout cas, c'est un bon cru pour la Formule 2, puisqu'il y a trois accessions en Formule 1.
Mais est-ce que ça montre aussi, Jean-Luc, qu'il y a un manque de vivier, si on est obligé de faire monter plus rapidement des jeunes pilotes issus de la F2?
Ah non, là c'est la voie logique. Hein. Ce qu'on peut déplorer, et on le fait chaque saison également, c'est qu'il n'y ait pas assez de baquets en Formule 1. Moi, je le dis et je le répète, mais tant que les budgets seront démentiellement élevés comme c'est le cas, et là je ne vois rien venir à l'horizon. Hein. Malheureusement, on parle beaucoup de la réglementation 2021, on l'a évoqué au cours de la saison, on continue à discuter. Aucune décision n'a été prise en matière de moteur, donc c'est quasiment trop tard. Donc ça veut dire qu'on va encore garder ce moteur qui coûte, pardonnez-moi l'expression, mais vraiment la peau des fesses. C'est une hérésie totale quand on voit que les manufacturiers, les constructeurs de moteurs facturent plus de 20 millions simplement pour 3 moteurs par saison. C'est grotesque. Les développements aéro, nous venons d'en parler. Bref, le coût de la Formule 1 est trop élevé.
Et voilà, vous avez entendu les meilleurs moments de Motors concernant la Formule 1 et cette saison 2018. Le rendez-vous maintenant, c'est le 17 mars pour le premier Grand Prix de la saison 2019. Ce sera en Australie, bien sûr. Et ce sera à suivre en direct, en intégralité, sur RMC, plus que jamais, la radio de la Formule 1.
Et dans un instant, Jean-Luc, le rallye, on va revenir sur le sacre de Sébastien Ogier, le 6e consécutif, vous entendrez son copilote, Julien Ingrassia, tout de suite sur RMC.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RMC, nous sommes le dimanche 30 décembre. Bonne fête à tous, vous écoutez les meilleurs moments de Motors. Et tout de suite, Jean-Luc Roy, on parle d'un grand champion français.
Ah, un très très grand même, parce qu'effectivement il est en train de se bâtir un palmarès incroyable. Ils sont en train, puisqu'on parle de Sébastien Ogier naturellement, qui a remporté son 6e titre consécutif, il faut quand même le rappeler, de champion du monde des rallyes en WRC. Les deux derniers, donc pour cette équipe privée, M Sport, sur une Ford. Et on va écouter son copilote Julien Ingrassia, c'était l'invité de Motors le 4 novembre. C'était juste avant le dernier Grand Prix, justement, qui s'est déroulé en Australie.
RMC Motors.
90, 150 mètres, 3-10.
Le briefing.
Salut Julien.
Salut Jean-Luc.
Bonjour. Écoute, je te remercie beaucoup de prendre un peu de temps. Je sais que, évidemment, c'est un moment où tu dois rassembler tes forces, te concentrer. Tiens, d'ailleurs, question toute bête, que fais-tu à quelques jours de ton envol vers l'Australie?
Bah là, à la seconde près, je suis en train de faire mes notes, justement, tu vois. Donc j'ai mes roadbooks de l'Australie et mes cahiers de notes quoi, des années passées. Puis je suis en train de réassembler le puzzle, on va dire, pour l'édition à venir. Et comme ça, d'ici ce soir, je serai capable de donner un résumé très détaillé quoi, à Seb de ce qui nous attend en Australie. Alors évidemment, on savait déjà, je lui avais déjà fait un topo sur globalement comment serait le parcours, mais là on va vraiment dans le détail, virage par virage, et comme ça, sur le long trajet qui nous mène là-bas, il va être capable de regarder un peu les vidéos de l'an passé, d'analyser un peu les portions communes, et puis aussi de commencer à regarder les nouvelles portions quoi, sur des vidéos que l'organisateur aurait pu nous faire passer.
Alors moi j'insiste toujours là-dessus, et tu le sais depuis toujours sur RMC, un équipage de rallye, c'est un équipage, c'est une équipe, c'est un couple même qui passe beaucoup de temps dans l'année ensemble, et le résultat, on parle évidemment beaucoup du pilote, ce qui est normal, je sais que tu n'en conçois aucune frustration Julien, mais ça se fait à deux, hein, évidemment. D'abord vous prenez évidemment les mêmes risques, et puis surtout ce travail en amont dont tu viens de parler, il est tellement important. Alors tiens, on va revenir sur le dernier rallye, parce que si on se parle, évidemment aujourd'hui c'est de toute manière parce que vous étiez en bataille pour le titre, mais vous avez réussi à inverser la vapeur et à reprendre le commandement du championnat du monde. Et je vais être un peu brutal, moi je m'y attendais pas forcément. Est-ce que c'est une bonne idée de partir devant le premier jour en Australie, tu me vois venir?
Une bonne idée sur le papier, non, parce que bah voilà quoi, pour ceux qui nous rejoignent le rallye, c'est vrai qu'on va parcourir des terrains sur l'asphalte mouillé ou sec, on va être sur des pistes sèches au Mexique en altitude, on va être sur des pistes boueuses en Angleterre, et globalement bah, quand on est premier sur une piste sèche sur terre, bah, on va avoir une couche de gravette, de poussière quoi, qui va nous enlever énormément de motricité, on va nettoyer littéralement quoi la trace pour les concurrents derrière nous, et évidemment bah, tous les opposants derrière nous bah, vont bénéficier de cette trace là avoir un meilleur grip, et donc ouais, sur le papier c'est pas top d'être premier en Australie. Après ben on a toujours été, enfin on s'est dit allez, c'est maintenant il faut
oui.
réfléchir,
il y a un moment où ça dure, hein, c'est ça.
On a déjà eu pas mal de déconvenues cette année, on a fait quelques erreurs de notre côté hein. on l'admet, notamment en Turquie où on s'est posé bêtement entre guillemets, puis après ben on a eu d'autres événements quoi pendant la saison, un rallye de Suède où on s'est bagarré comme des diables, mais on était justement premier sur la route, il y avait une couche de neige fraîche, on a pu finir que dixième derrière tout le monde. Au Mexique on nous a retiré 5 points quoi suite d'un épisode un peu compliqué avec la FIA quoi, sur des histoires de chicane. Donc on s'est dit voilà quoi, les points on en a suffisamment perdu, maintenant on sait faire de toute manière, on a l'expérience quoi, pour être premier sur la route on va y aller. Et puis après bon bah c'est vrai qu'on était juste un point derrière Thierry Neuville et qu'on lui laissait ouvrir la route, on sait qu'il est pas très très fort à cet exercice là, ça aurait pu être une bonne chose aussi, mais là on y va avec la tête droite et le torse bombé on va dire.
Oui, et puis de toute façon c'est difficile quand même de se museler hein, en termes de performance, il aurait fallu que vous choisissiez, et quand même dans le feu de l'action on prend tout ce qu'il y a à prendre hein. c'est un petit peu ça la légende évidemment. Alors je le répète, Arnaud l'a dit tout à l'heure, 204 points pour vous et 201 pour Thierry Neuville, à laquelle, et tu sais pour quelle raison j'associe évidemment Nicolas Gilsoul. Est-ce que c'est un duel de copilote aussi? Est-ce que c'est un duel de coéquipier? Quel type de rapport tu entretiens avec Nicolas Gilsoul et comment on se parle entre copilotes?
Alors très clairement, c'est vrai que entre copilotes, on a toujours, on va dire, du respect, et même entre équipages de toute manière, il y a pas d'histoire en WRC, c'est ça qui est chouette quoi. Ouais. Entre deux spéciales, on va être capable de tchatcher les uns les autres, d'essayer le baquet de l'un ou de l'autre. Enfin, on a des moments de partage, on va dire. Par contre, on sait évidemment que c'est la guerre, et notamment à ce moment-là de la saison. Et c'est vrai que là, du coup, ben, j'ai le couteau entre les dents, et copilote, pas copilote, là, on fait plus le détail, et ça va être la guerre, quoi. Donc oui, effectivement, on se fait pas de coup tordu, mais par contre, on se rend pas de cadeau non plus, évidemment.
Bah, c'est clair.
Nicolas, c'est quelqu'un que je côtoie depuis quelques années, effectivement, et il a une approche très très pragmatique et très sérieuse du rallye, quoi. On l'a pas souvent vu faire d'erreurs, etc. Mais je sais qu'en début de saison, quoi, effectivement, quoi, gentiment et toujours avec le sourire, et c'est ça qui est chouette malgré tout, c'est qu'on peut être viril mais correct, hein, c'est comme ça qu'on dit, quoi. j'avais lancé 2-3 petites piques, quoi, au moment où effectivement, quoi, après le rituel, il déclarait être très très content, quoi, d'ouvrir la route au Mexique, bah, je lui avais offert une petite balayette, quoi, à l'occasion sur les limites du Mexique, et en lui disant, bah, vas-y, amuse-toi bien, quoi, et effectivement,
fais-nous le boulot.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans Motor sur RMC. On est en direct avec Julien Ingratiel, copilote de Sébastien Ogier. On parle évidemment du WRC, le championnat du monde des rallyes, et de ce rallye à venir en Australie. Moi, je voudrais faire un petit retour en arrière de quelques jours. Comment vous avez vécu, Julien Ingratiel, la victoire de Sébastien Loeb la semaine dernière?
Alors, la victoire de Seb Loeb et Daniel Elena, très clairement, quoi, on va dire que j'avais un bon sourire parce que ça faisait plaisir de les revoir sur le circuit. C'était déjà venu deux fois cette année où, ben, ils n'avaient pas brillé, entre guillemets, quoi. Et puis là, ben, ils ont su prendre leur revanche. Donc, à titre personnel, amical, quoi, j'étais vraiment content de les voir. Et puis, ben, après, il faut pas oublier que l'an prochain, on sera chez Citroën.
Et voilà,
donc,
on va y venir.
Donc, très content de voir que la voiture, bien manié, c'est fonctionné. Après, voilà, j'étais pas très content de la prestation. J'aurais voulu qu'on finisse premier et on avait les moyens de le faire, quoi. Bon, voilà, c'est passé différemment. On n'a pas eu des infos métaux assez affûtées.
Voilà, on va rebondir justement là-dessus, sans entrer trop dans le détail encore, mais on sait bien que c'est un choix de pneus hein, qui a été déterminant. Julien, c'est ça que tu veux dire?
Ouais, effectivement, on est chez M Sport, quoi. On a encore la plus petite des équipes du WRC.
Et oui.
Et donc, par moment, malgré tout ce qu'on a essayé de mettre en place, Seb et moi, malgré toute la bonne volonté de l'équipe, il nous a manqué quand même une certaine expertise dans ce domaine-là, météo. On s'est planté de pneus, pour ainsi dire, tout le week-end. C'est pas habituel chez Seb Ogier, quoi, de faire les mauvais choix de pneus. Et on a payé, quoi, assez cher, puisque, il y a 7 points qui nous échappent, du fait que Loeb et Elena finissent premiers. Mais voilà, maintenant, ça fait partie du passé. Et puis, à nous d'être encore plus forts en Australie.
Alors, justement, l'Australie, on y vient, c'est un rallye sur terre, hein, donc effectivement, où vous allez normalement balayer le premier jour, après on remet les compteurs à zéro. Une épreuve, la dernière, on peut pas rêver mieux dans un championnat, évidemment, qu'une issue comme celle-là, mais j'oserais dire, Julien, la pression, elle est sur vous, bien sûr, pour essayer de décrocher un autre titre de champion du monde de rang, vous en êtes déjà à 5, hein, avec deux équipes, mais elle est peut-être plus sur Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul, eux, ils n'ont jamais été champions du monde.
Ouais, effectivement, quoi, c'est ce que j'ai entendu un peu autour de moi, et nous on a la quand tu finis premier,
ouais,
une première fois,
tu sais que tu peux le faire déjà.
Il est hors de question, quoi, de finir second ou troisième ou à une autre place que premier, quoi. Et finalement, on a énormément de pression tout au long de l'année parce que ce titre à défendre chaque saison, il y a vraiment plus le choix, quoi. Tandis que quand on l'a pas encore gagné, entre guillemets, l'opportunité de peut-être rater le coche cette fois-ci. Donc ouais, je suis d'accord. Je dirais que globalement, c'est toujours pareil, quoi. Moi, virage après virage, il y a tellement d'erreurs possibles, quoi, en rallye, quoi, les conditions météo, le terrain qui change, ce sont des longues semaines, etc. Donc il faut surtout pas être prétentieux ou arrogant. Par contre, effectivement, qu'on compte bien laisser la pression sur les épaules de Neuville et Gilsoul, et nous, on va profiter de notre expérience, quoi, dans ces conditions-là, quoi, à forts enjeux. Ouvrir la route, on a déjà fait ça pendant des années, donc on va tout mettre en œuvre, quoi. Ça va se jouer dans le détail, hein, parce que ça va pas jouer à grand chose. Et puis, vous sur RMC, et puis les spectateurs, téléspectateurs, quoi, il va falloir mettre le réveil un peu tôt, quoi, le dimanche matin.
Mais on le fera.
Dans 15 jours, sortir la bouteille de champagne, mettez-la sur la table basse, et puis on verra bien si ça sert.
Absolument. Et puis on essaiera de t'avoir, hein, si tu veux bien, Julien, juste après ce dernier rallye, quoi qu'il arrive. Alors deux questions. Enfin, j'en aurais 10 à te poser, mais déjà deux. La première, je vais rebondir sur la question d'Arnaud il y a un instant avec la victoire de Sébastien Loeb et Daniel Elena. Vous allez peut-être les rejoindre. En tout cas, vous allez chez Citroën pour un programme à plein temps. Ça, c'est sûr. Je te pose franchement la question. Tu sais, moi, j'ai pas l'habitude de m'emberlificoter dans des détours. S'ils viennent comme ça faire le joker un petit peu de temps en temps, est-ce que c'est pas finalement, je vais oser dire, gênant pour vous qui allez évidemment jouer le titre?
Alors toi, tu poses les questions franchement.
C'est une vraie question.
À moi de répondre franchement aussi.
C'est oui, ça c'est ça, exactement.
Alors, nous en bien difficulté, quoi. Je serais très content, quoi, de me bagarrer contre cet équipage-là.
Mais si vous les battez, c'est ça.
Non, c'est pas.
Non, je rigole.
C'est le sport, son coin. Ouais. Effectivement, s'ils nous battent dans la même voiture, à armes égales, avec les mêmes infos, avec la. Écoute, c'est juste du sport, et tant mieux, quoi, pour tout le monde. Par contre, effectivement, quoi, l'an prochain, on a été embauché chez Citroën pour gagner un championnat. Donc, il va falloir réfléchir aussi team, il va falloir réfléchir équipe. On a affaire à des écuries, Toyota, Hyundai, et puis aussi M Sport l'an prochain qui sera toujours là, qui sont affûtés. Donc, il faudra pas laisser partir des points bêtement. Donc, effectivement, quoi, après, il y aura une approche globale au niveau de l'équipe pour savoir comment on veut gagner ce championnat-là.
Alors, autre question franche aussi, comment il est Sébastien Ogier cette fois sous la pression, plus tendu que jamais, finalement pas plus que ça, vous l'avez déjà fait, on l'a dit, dans quel état d'esprit il est là maintenant?
Alors si on dit aujourd'hui dimanche, il est très content d'être avec son fils et sa femme, ça c'est sûr et certain,
oui.
Pour une fois qu'on a un week-end de libre. Après, blague mise à part, on est... Comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment pas confondre les mots qui sont dans ma bouche, c'est ni d'arrogance, ni de, ni être trop sûr de soi, mais je pense qu'on est assez serein et déterminé, ça c'est évident. On va aller chercher tous les détails, on va avoir la niaque dès le premier virage, donc je pense que c'est une espèce de force tranquille, on va dire ça.
D'accord,
comme ça.
D'accord. Comme on l'évoquait tout à l'heure, vous l'avez déjà fait à plusieurs reprises, vous savez ce que c'est, y compris ouvrir la piste, y compris sur le dernier rallye, y compris avec le titre en jeu. Donc effectivement, ça fait beaucoup. Parle-moi aussi du terrain en Australie. En quoi est-il différent peut-être des autres? Quelle particularité, quel piège faut-il éviter?
Alors, l'Australie, donc c'est un terrain en petit gravier blanc. Cette année, on a plus un parcours quoi, un peu plus centré dans les forêts, dans la jungle, un peu australienne. Le piège, ça peut être si justement il se met à pleuvoir, cette terre là qui est glissante parce que ces petits gravillons roulent sous le pneu, peut se transformer en argile. Et là, c'est une patinoire. T'as plus de son, plus d'image. Ouais. D'un coup, t'as la voiture qui décroche. T'as pas compris. T'as pas réussi à lire le grip au sol. Et puis là, dans ces conditions-là, bon, on a vu l'expérience en 2011 où on se bagarrait à l'époque encore contre l'Hub chez Citroën, ouais, où lui était sorti de la route une spéciale avant et nous on était en tête du rallye et puis sur une espèce de plaque de verglas, là, on peut littéralement dire ça comme ça, on est allé s'encastrer dans un arbre et puis le rallye était fini pour nous aussi, quoi. Donc non, ça peut être très piégeux. C'est un rallye relativement compact, donc ça c'est bien, il n'y a pas de grands routiers, quoi, c'est des journées relativement courtes, mais on est au bout du monde, il y a un peu tout qui est chamboulé, c'est le décalage horaire évidemment qui est plus important qu'ailleurs, quoi. Donc il faut arriver en forme là-bas.
Alors deux questions, ça va être malheureusement les deux dernières, tu sais que ça passe très vite et c'est toujours un plaisir de
s'en prendre. Enfin là Jean-Luc il y aura quand même. Hein,
là c'est bien, non c'est bien.
On n'est pas avec n'importe qui quand même.
Alors la première, puisque Julien l'a évoqué tout à l'heure, les renseignements fournis sur le terrain, tu le disais. Alors vous avez des recos, mais on le sait à vitesse limitée et avec je crois deux ou trois passages max. Ouais, donc c'est vraiment très peu. Alors, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, j'ose le dire, parce que compte tenu des vitesses, vous avez la capacité de vous projeter?
Et ben voilà, c'est ça la difficulté du rallye, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de simulateur, on peut jouer aux jeux vidéo, mais c'est pas pareil. Il n'y a pas de simulateur, il n'y a pas d'école de rallye à proprement parler. C'est l'expérience qui fait vraiment tout, et les reconnaissances, donc pour faire bref, donc ce sont deux passages à vitesse limitée contrôlés par GPS le mardi et le mercredi, où on va prendre les notes avec ça. Donc là, en l'occurrence, beaucoup de notes nouvelles sur des cahiers neufs, puisqu'il y a des spéciales nouvelles. On a un système d'angle au volant, de distance, de bosser, pas bosser, de revêtement, corde, pas corde, tout ce langage-là, il faut le mettre en œuvre, et à 70 km/h, réussir à anticiper effectivement le jour de la course où on va arriver là-dedans peut-être à 180 à l'heure, comment le jump ou cette compression, est-ce que ça va kicker, est-ce qu'on va à l'arrière quoi, qui va rebondir, est-ce qu'on va avoir du grip, donc tout ça effectivement quoi, il faut être hyper concentré pendant les reconnaissances parce qu'il y a 50% du boulot du rallye qui fait à ce moment-là.
Allez, ma dernière question, c'est promis malheureusement, puis on va te laisser te replonger dans tes notes, mais ça t'aura fait une petite petit intermède finalement, c'est peut-être pas plus mal avant.
Ouais, on reste dans le sujet quand même.
Ouais, t'as raison. Ce sont les ouvreurs parce qu'on en parle peu. Tu parlais des infos, effectivement, de quelles infos allez-vous disposer, notamment en fonction de la météo ou des changements du terrain en Australie?
Alors en Australie, c'est un rallye terre, donc on n'a pas le droit aux ouvreurs, c'est uniquement sur les rallyes asphalte. Par contre, effectivement, chaque équipe dispose d'hommes météo, on les appelle comme ça, quoi. Donc ce sont des petits gars qu'on dispose dans les spéciales et qui vont nous donner les conditions de course. Alors entre les deux passages, est-ce que le terrain s'est creusé ou pas, est-ce qu'il y a des lignes quoi de 10-15 cm sur les zones de freinage ou dans les virages pour relever la hauteur de caisse quoi, l'assistance de midi. Ouais. Est-ce que il y a un micro orage quoi qui s'est développé et, est-ce qu'il va falloir assouplir la caisse quoi parce que le terrain est détrempé. Ils vont aussi peut-être regarder un peu l'effet de course, est-ce qu'ils voient passer un concurrent avec un problème, etc. Donc on a ce retour-là d'information qui est à peu près toutes les 30 minutes, sauf en cas d'imprévu, d'urgence. D'accord. Ils sont en contact avec le team. Après on a quelqu'un au niveau météo quoi qui nous donne un avis météo quoi sur la boucle à venir, et ça c'est hyper important aussi quoi parce qu'on choisit des pneus quoi pour toute une matinée pour 4 ou 5 heures de course. Et puis effectivement on parlait des ouvreurs, donc ça c'était en Espagne sur la rallye asphalte, ce sont des gens qui passent avec une copie de mes notes 2 heures avant nous dans les spéciales, toujours pareil à vitesse limitée, qui virage par virage on fait la correction
des
dernier moment
retouches,
et notamment quoi au rallye Monte Carlo où il y a la glace, la neige, le sec, tout ça, on aura l'occasion d'en reparler.
C'est encore autre chose. Génial, merci beaucoup Julien Ingracia d'avoir été avec nous dans Motoche aujourd'hui. Je vais te dire un dernier mot et tu ne me répondras pas, c'est grossier mais Vincent le dit tout le temps, merde. Tu vois,
jamais merci.
RMC Motors. 90, 150 mètres, droitier, 320. Le briefing.
Lucas, le récit de la nuit. On rappelle que la lutte pour le titre concernait trois hommes: Aude Tanak, Thierry Neuville
et donc Ogier.
C'est ça, 22h38, départ de la 21e spéciale, Ogier 6e, Tanak 2e et Neuville 8e. À l'issue de cette spéciale, le classement général ne change pas, mais après la pause, à la mi-journée en Australie, tout est bouleversé. 1h du matin, la 22e spéciale débute et c'est l'événement. Thierry Neuville heurte un arbre, casse sa suspension et se voit contraint à l'abandon. Ogier continue lui sur son rythme, toujours 6e au classement. Tanak est alors 2e et surtout le seul à pouvoir priver le Gapençais du titre. 2h31, nouveau rebondissement puisque l'Estonien Ott Tanak perd le contrôle de sa voiture, heurte un arbre lui aussi et jette l'éponge. Sébastien Ogier est alors sacré pour la 6e fois de sa carrière et se paye même le luxe, tenez-vous bien, de remporter la Power Stage, ultime spéciale de cette saison 2018. L'adage finir en beauté est parfaitement respecté.
Absolument, merci Lucas, tu restes avec nous évidemment. Jean-Luc, il y a eu des circonstances favorables, on l'a entendu la nuit dernière pour Sébastien Ogier, mais ce titre, il est allé le chercher à la pointe de l'épée. Vraiment.
Ah ben écoute, ça se provoque, hein, comme on dit, la malchance des autres. J'associe toujours Julien Ingrassia, si
bien
vous
sûr,
le voulez bien,
on n'oublie
jamais, voilà, qu'on avait eu dans Motors, d'ailleurs, il y a deux semaines, juste avant leur départ pour l'Australie. Écoute, oui, bah pour être champion du monde, et ça, Thierry Neuville doit méditer là-dessus et doit l'apprendre avec son coéquipier Koltsoul, parce que si on commet des erreurs, alors ils en ont commis une, hein, en Turquie, on le rappelait également hier, du côté de Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, mais c'est la seule, on peut s'en permettre une, mais pas plus. Et là, on peut dire que Thierry Neuville en a commis malheureusement d'autres. Je pense qu'une nouvelle fois, c'est une victoire magnifique parce que il ne disposait ni de la meilleure voiture, c'est une évidence. D'ailleurs, le titre constructeur revient à Toyota avec la victoire de Latvala. Donc, ça démontre que collectivement, l'équipe Toyota, qui est extrêmement puissante, était meilleure. Et puis, on sait que l'équipe Hyundai, qui a des moyens quasi illimités également. Donc, ça veut bien dire qu'une nouvelle fois, Ogier et Gracia, par eux-mêmes, grâce à leur talent, ont réussi à faire craquer les autres. Et là, tu le disais, il a plu à un moment. La piste était une vraie patinoire, extrêmement glissante. Je dis la piste volontairement, parce que c'était une piste, hein. C'est de la terre, donc ça devient une patinoire. Et Ogier a su rester parfaitement maître de son sujet, ne jamais mettre un pied à côté, ou une roue en l'occurrence, parce qu'il y avait beaucoup de dangers. Donc oui, les autres ont commis des erreurs, mais je pense que la pression que Ogier leur a mis, puisqu'il occupait cette 6e position, et que de toute façon, il était champion du monde s'il devançait Neuville.
Un autre adage que Sébastien Ogier a honoré, Lucas, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ils étaient 3 avant ce week-end à pouvoir être champion du monde. Le titre n'en est donc que plus beau. Sébastien Ogier était ce matin l'invité de Réveil Matin Week-end, la matinale d'RMC Sport News. Écoutez-le.
Effectivement, ça a été une saison très intense où il a fallu se battre jusqu'au tout dernier rallye du championnat pour aller chercher le titre et on a rencontré des conditions encore compliquées ce week-end, mais on a réussi à passer au travers des pièges et marquer les points qui nous manquaient pour aller chercher un sixième titre. Donc c'est sûr que je me sens bien à l'heure actuelle et que c'est toujours difficile de trouver des mots, mais très satisfait d'avoir rempli l'objectif une fois de plus et empilé un deuxième titre avec mon équipe M-Sport avant de les quitter et de rejoindre Citroën début d'année prochaine.
On parlera de ce départ oui. Chez Citroën un petit peu plus tard. À ton avis, Jean-Luc, qu'est-ce qui a fait la différence cette saison pour Ogier?
La constance, l'osmose avec l'équipe, et je crois que vraiment l'hommage qu'il leur rend, et il a tenu à citer évidemment le chef, le patron Malcolm Wilson, qui est un passionné incroyable, parce qu'on rappelle que cette petite équipe britannique, en l'occurrence, bénéficie d'un soutien de Ford, mais qui est vraiment parcimonieux, qui est très léger hein, par rapport à l'investissement, on vient de le dire, de Toyota, de Hyundai ou même de Citroën. Ça, ce sont des vraies équipes d'usine, alors que ça n'est pas le cas de cette équipe M-Sport. Donc c'est vraiment une relation humaine également, et c'est ce qui avait entraîné d'ailleurs la décision, un peu à la surprise générale, d'Ogier, lorsque l'équipe Volkswagen a arrêté, on lui déroulait un tapis rouge, c'est le cas de le dire, dans toutes les équipes, et bien non, il avait choisi affectivement cette petite équipe de Malcolm Wilson, parce qu'on le désirait vraiment, on le voulait vraiment.
Lucas, c'est effectivement ça aussi le mérite d'Ogier cette saison.
Un bon choix de carrière hein, quand même, il faut le dire. C'est pas donné à tout le monde. Certains sports automobiles se sont trompés, mais lui, on sent que c'est un vrai leader. Il arrive à rassembler tout le monde autour de lui pour faire en sorte que l'alchimie prenne et aller chercher cette victoire. C'est vrai que quand on a une voiture qui est beaucoup moins performante que celle des autres, il faut aussi faire bloc avec son équipe et on sent que lui, c'est un meneur d'hommes, c'est un leader. Et puis ouais, c'est vrai que remporter une telle victoire avec un championnat très serré, 3 hommes en lutte pour le titre avant le dernier rallye, ça n'était pas arrivé depuis 2003, rendez-vous compte. 2003, ça coïncide avec le dernier titre de champion du monde des rallyes, qui n'est pas revenu à un Français. C'était Peter Solberg à l'époque.
Qui n'est pas revenu à un Seb. Alors, je voulais juste dire, en termes du nombre de points, si on reprend les titres de Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, à partir de 2013, 290 points, donc à chaque fois je vous donne l'année et le nombre de points, 290 en 2013, 267 en 2014, 203 en 2015, 268, et où je voulais en arriver, bah chez Ford, 232 seulement l'an dernier, 219 cette année. C'est dire qu'il y a eu effectivement une dispersion de points, mais que lui et eux, ils sont toujours là.
Mais ça souligne aussi le mot constance dont tu parlais tout à l'heure, constance sur l'ensemble de la saison, et même constance d'une saison à l'autre. Alors on l'a dit, les circonstances, elles étaient extrêmement particulières ce week-end, trois hommes qui luttaient pour le titre, avec en plus de la pluie qui est tombée abondamment la nuit dernière en Australie, ce qui a rendu l'affaire plus vicieuse encore. Résultat, Sébastien Ogier, on l'écoute, a dû s'appuyer sur son expérience.
C'est jamais des situations évidentes à gérer, mais je pense que effectivement mon expérience et le fait d'avoir déjà 5 titres en poche m'a aidé à être plus serein et un petit peu plus relax que mes deux concurrents. Mais malgré tout, c'était compliqué parce que le rallye d'Australie, c'est un rallye où les positions de départ ont beaucoup d'influence en gros sur nos performances. En leader du championnat, en arrivant ici, ça a été compliqué. J'ai pas mal souffert en début de course et perdu pas mal de temps, mais notre force a été de pas craquer, de pas faire d'erreurs et de maintenir la pression. Et finalement, nos deux concurrents ont fini par eux faire des erreurs pour nous ouvrir la voie sur ce deuxième titre.
Voilà donc pour le 6e titre consécutif de Sébastien Ogier avec son copilote, un autre Français, Julien Ingrassia. Dans un instant, la suite des meilleurs moments de Motors, on parle de MotoGP. Deux Français seront engagés la saison prochaine dans la catégorie Rennes, Johan Zarco et Fabio Quartararo. Puis on reviendra également sur le nouveau titre de Marc Marquez. À tout de suite sur RMC.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Bonne fête à tous, vous écoutez RMC, ce sont les meilleurs moments de Motors. Après la F1, après le rallye, Jean-Luc, le MotoGP.
Eh oui, c'est l'autre grosse partie, on aime bien en parler, on place toujours de la moto dans Motors. Alors, il n'y a pas eu de victoire française, malheureusement, cette saison. On est passé tout près pour Johan Zarco, mais il y a un nouveau titre pour l'Espagnol Marc Marquez, qui est en train de se bâtir un palmarès incroyable. D'ailleurs, s'il continue comme ça, il peut aller plus loin que Valentino Rossi, la référence absolu, avec ses 9 titres de champion du monde. On en parle tout de suite avec Benoît Boutron, qui nous rejoint toujours dans Radio Paddock, Louis.
RMC Motors.
World champion! Oh my God! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Salut Benoît.
Salut les amis. Je crois qu'aller dire ça, c'est toujours une bonne nouvelle.
Oui, mais c'est aussi toujours une bonne nouvelle. C'est aussi toujours un plaisir de te voir débarquer dans le studio.
Salut Benoît.
Benoît, on va commencer évidemment par le MotoGP. Un instant, on sera avec notre invité Jean-Claude Augrel. Mais d'abord, des essais privés comme en F1 ont eu lieu cette semaine.
Oui, et pas mal d'enseignements à en tirer. On a un pilote qui s'est détaché quand même, qui a été exceptionnel, notamment à Jerez en Espagne. C'est Nakagami qui a été le meilleur sur sa Honda. Petrucci termine deuxième de cette séance d'essai avec sa Ducati. Marc Marquez est là, évidemment, à la troisième place. Mais ce qu'on a surtout envie de retenir, Louis et Jean-Luc, c'est la performance de Fabio Quartararo. Vous le savez, il a roulé en Moto 3, il roulait en Moto 2 l'an passé. Il va découvrir le MotoGP cette saison avec son team Petronas Yamaha SRT. Et finalement, Quartararo fait le 12e temps à Jerez, juste derrière un certain Valentino Rossi. C'est quand même une sacrée perf pour lui. Et on espère que ça va se poursuivre ainsi, hein, Jean-Luc. C'est bien pour Quartararo.
Ah, c'est très bon. Écoute, Fabio, on sait qu'il est talentueux depuis le début, hein, depuis ses participations au championnat espagnol en Moto 3 quand il était tout jeune. Il a eu un peu plus de mal ensuite en championnat du monde et puis en Moto 2 avant cette dernière saison où il a brillé. Je pense que là, il va être à son affaire. Il a un gabarit également qui lui permet. Puis tu sais, il y a certains pilotes qui s'adaptent mieux aux motos très puissantes et très rapides. Ouais. Je pense que c'est le cas de Fabio.
Alors, petit point technique d'ailleurs, parce qu'il a eu certaines déclarations à la fin de cette séance d'essai libre. Il a dit justement qu'à Valence, il avait eu du mal à gérer l'accélération à cause du wheeling. Le wheeling, on rappelle, c'est que c'est la roue avant qui se soulève. Ça aussi, c'est une certaine adaptation, puisque les motos de MotoGP sont beaucoup plus puissantes qu'en Moto 2 ou Moto 3. Jean-Luc, il va falloir un petit peu de temps pour lui pour s'adapter, non ?
Ah oui, il y a pas photo. Puis il y a une partie électronique qui est heureusement d'ailleurs beaucoup moins importante qu'en F1, mais on doit gérer effectivement ces paramètres et modifier la moto pour qu'elle convienne parfaitement à son pilotage. Alors du wheeling, on en fait toujours quand on voit les sorties de courbe de Marc Marquez, notamment. On a bien compris avec le guidon quasiment en buté, donc on a bien compris que ça se passait, mais il faut le maîtriser, il faut l'adapter. Et ce sont d'excellents débuts de Fabio Quartararo, qui de surcroît ne s'est pas fait mal, hein, c'est très important, qui est au milieu du paquet. tu le disais, tout proche quand même du nonuple champion du monde, c'est pas mal.
Tu fais un peu de wheeling en vallée de Chevreuse?
Écoute, avec ma FJR 1300, j'ai un peu de mal, pile jeu. Tu sais, il y a des chevreuils qui traversent.
Ah oui. et tu es respectueux de la nature. Hein.
Ça, c'est exactement. Ça j'adore les animaux.
On continue à parler de moto. On va accueillir ton invité, Jean-Luc, ancien pilote moto, Jean-Claude Augrel, un habitué de Motors. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour à tous.
Salut Jean-Claude. C'est toujours un plaisir de t'accueillir sur cette antenne et dans cette émission. Écoute, on va revenir sur ces tests. Alors, tu nous as peut-être entendu parler de F1 et des essais post Grand Prix d'Abu Dhabi où on testait les pneumatiques. C'est vrai que d'abord là à moto, ce qui fait plaisir aussi, c'est de voir les pilotes sous leur nouvelle couleur déjà, hein, parce qu'on l'a pas clairement évoqué en F1, mais là ça fait plaisir, d'autant que il y a un nouveau Français dans la catégorie Rennes.
Oui, alors c'est honnêtement la saison 2019, j'ai hâte d'y être parce que j'ai regardé évidemment Valencia et Jerez et il y a 14 pilotes dans la même seconde. Il y a une petite anecdote d'ailleurs, à chaque fois le 14e c'est Johan Mir qui lui aussi arrive en MotoGP. 14 pilotes dans la même seconde en MotoGP, on est habitué à ça en Moto3. En Moto 2, mais en Moto GP, c'est rare. Vu la puissance, c'est quand même pas facile à gérer. Et évidemment, les débuts... Alors là, je suis vraiment extrêmement étonné la performance de Fabio Quartararo. Il a été à 1,5 seconde à Valencia, il finit à 8 dixièmes à Jerez. Spectaculaire.
Ah oui, dans cette équipe privée, en plus Petronas Yamaha, on le rappelait, donc c'est le team satellite en fait qui succède, on peut dire ça comme ça, Jean-Claude, à Tech 3, hein, Yamaha, l'équipe d'Hervé Poncharal qui est passée avec KTM.
Exactement. Alors honnêtement, il est censé avoir une moto privée, Morbidelli est censé avoir une réplique des motos d'usine, mais Fabio a une moto normalement privée classique, la même que celle qu'a pu utiliser Ciarine par exemple, ou Johan en 2018, et vraiment être à 8 dixièmes des meilleurs temps. Bon, alors ce ne sont que des essais, on est d'accord, on teste des pièces, etc., etc. Mais quand même, c'est extrêmement étonnant. Au début, il disait que les freins étaient extrêmement surprenants, les freins carbone, c'était quelque chose de tout nouveau pour lui, il a eu du mal à s'habituer. Eh ben écoutez, moi j'aimerais bien m'habituer comme lui assez rapidement.
Hein. Ben oui, tu as raison. Alors, je parlais un petit peu d'électronique, puisqu'on évoquait le wheeling avec Benoît il y a un instant. C'est vrai que ces machines de Grand Prix qui délivrent, allez, grosso modo, 300 chevaux. Hein. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on passe 300 chevaux au sol sur le format à peine d'une carte de crédit.
Oui, alors ça, c'est toujours très surprenant. Alors, évidemment, il y a quand même un peu d'électronique. Hein. Il y a quand même de l'anti-wheeling, il y a de l'anti-patinage. Heureusement, parce que je crois qu'autrement, ça serait complètement impilotable. Quand on passe que Fabio, ou même Johan, par exemple, il y a 2 ans, passe d'une moto qui faisait 120 chevaux à une moto qu'en fait 260 au bas mot, franchement, l'adaptation de ces pilotes me surprend. J'ai eu, moi, dans ma carrière, l'occasion de passer d'une 250 à une 750 au W31 à l'époque, et je me rappelle le temps qu'il a fallu que je me fasse au changement de panneaux de freinage qui sont plus du tout les mêmes, à la vitesse qui est plus du tout la même. Là, franchement, je suis très étonné et j'ai hâte d'être à la saison 2019.
Jean-Claude Augrel, l'ancien pilote moto, est l'invité de Motors en direct sur RMC. Jean-Luc.
Oui, et puis j'allais te dire, Jean-Claude, parce qu'on est obligé d'évoquer des vieux souvenirs, on a même fait course de moto ensemblement, ça nous rajeunit pas. Oui, à l'époque, c'était tout ou rien, hein, tu te rappelles? C'est-à-dire que, et toi, tu le faisais avec beaucoup plus de talent que moi, mais quand tu remettais les gaz, c'était direct. Là, pour le coup, c'était du brutal.
Oui. Alors, les choses ont bien changé, heureusement, parce que c'est plus du tout la même puissance non plus, hein. Maintenant, les motos ont extrêmement évolué. Rouler avec une moto moderne maintenant, quand on rentre dans un virage, on se demande comment on peut perdre l'avant. Bon, on finit par trouver, hein. On finit par perdre l'avant quand même. Mais honnêtement, tout a évolué d'une manière énorme. Considérable et tant mieux, et ce n'est que mieux pour le spectacle. Et c'est vrai que tout à l'heure j'ai une petite image, mais vous allez dire encore que voilà, mais honnêtement, j'ai dit tiens, on va passer à un vrai sport, on va parler de moto. Franchement, un Grand Prix maintenant, quand on voit ce qui est capable de réaliser Marquez ou même Rossi sur un Grand Prix, alors c'est pas un pilote d'essai, on le sait, là il est à peine juste devant Fabio, mais en course il est toujours redoutable.
Oui, tu parles de Valentino Rossi, bien sûr.
Évidemment. Donc je trouve que cette saison 2019, ça va être bien. Lui qui veut toujours gagner un dixième titre, ce fameux Valentino Rossi, et les nouveaux qui arrivent. Regardez ce que fait Francesco Bagnaia, ce que fait Morbidelli avec la Yamaha. Honnêtement, c'est impressionnant. Johan Mir, qui finit à chaque fois le dernier des pilotes dans la même seconde que le premier, c'est étonnant et ça va être extrêmement intéressant.
Alors, on en revient au haut de grille, si tu veux bien, Jean-Claude, et notamment Marc Marquez, bon, qui est troisième à Valencia et qui est deuxième, d'autant qu'il est blessé. On sait qu'il va passer sur le billard pour son épaule qui avait été démolie.
Oui, tout à fait. Mais l'homme caoutchouc, comme je m'amuse à l'appeler, pour une fois, il s'est un peu fait mal, oui. Mais oui, bien sûr, il est un peu blessé. On note aussi dans ses essais le retour de Jorge Lorenzo avec la Honda. Oui. Il s'est fait assez vite à la moto. Il est de plus en plus près. Lui aussi est blessé.
Il va repasser sur le billard pour la cheville, hein, le pied.
C'est ça. Donc, ça veut dire que tous ces gens, quand ils vont être en forme pour le premier Grand Prix de la saison, ça va être une saison extraordinaire. Lorenzo, pour aller chaque année sur les Grands Prix, Lorenzo, c'est un pilote d'une propreté phénoménale, exemplaire à regarder. Pendant 20 tours, il passe sur le même gravillon au centimètre près. Je me dis qu'avec la Honda, ça va être très très bien. Et tout, en fait, tout m'excite. Là, vraiment, cette saison 2019, j'ai hâte.
Et puis l'affrontement entre les deux monstres, hein, tu viens de le dire, Jorge Lorenzo, qui a pas en général de très bonnes relations avec son équipier, il arrive chez Marc Marquez, qui est tenant du titre et qui est chez Honda et qui a fait la moto à sa mesure. Donc effectivement, je pense que ça va être un paroxysme, hein, cet affrontement des deux pilotes chez Honda.
Oui, pour l'instant tout va bien parce que pour l'instant Marquez est tranquille. Donc pour l'instant ils s'entendent très bien, ils font des beaux sourires. Je pense que ça risque de se gâter au fur et à mesure de la saison et en fonction de ce qui va se passer dans le team et en fonction de celui qui sera devant. Mais tant mieux. C'est exactement la même chose avec Vinales et Rossi. Pour l'instant, tout va à peu près bien. À partir du moment où Vinales va avoir une moto qui sera un peu plus adaptée à ce qu'il demande depuis un moment, ça va plus être la même chose. Voilà, mais c'est comme ça dans toutes les écuries. En fait, c'est comme ça dans le sport. On veut toujours être le plus grand, le plus beau et le plus fort. Et forcément, il y a un moment où son coéquipier nous gêne.
Jean-Claude Ogrel, vous restez avec nous dans Motors, Radio Paddock, Benoît Boutron,
oui.
Avec une autre info concernant la moto,
et oui.
Une info dont je salive par avance à l'idée d'imaginer Jean-Luc réagir.
Et voilà, une info climatique, puisque la moto électrique, et oui, ça débarque, ça y est. Malgré le lobbying de notre ami Jean-Luc Roy, elle va débarquer, la moto électrique. Bon, il est quand même content, puisque certains de ses amis vont y participer.
Ouais.
Déjà, première indication, Jean-Luc, c'est pas des trottinettes, hein, c'est des vraies motos. C'est-à-dire que c'est le même système qu'une moto normale.
Oui, je te mets à l'aise, oui, ce sont des vraies motos. Bon, je crois que tu sais, il faut sacrifier ça. On en reparlera, tu verras, de l'électrique, et dans pas si longtemps que ça. Je pense que Carlos Tavares, un des grands patrons français de l'automobile, du groupe PSA, qui émet toutes les réserves d'usage, on se retrouve tout à fait bien là-dessus, plutôt je le retrouve. Bon, ce que tu pourrais être plus sérieux, voir de Punier d'Imeglio.
Voilà.
Pardon?
Ouais, donc il y aura trois Français, de Punier d'Imeglio et Forêt. On rappelle que c'est un championnat du monde, donc il sera tout à fait officiel. Il y aura 5 étapes l'année prochaine pour cette première année de lancement. Il y aura Jerez évidemment le 5 mai, il y aura Le Mans le 19 mai, donc il y aura de la moto électrique en France, le Sachsenring le 7 juillet, après l'Autriche et Misano. Donc en fait, avant les grands prix de MotoGP, Moto2, Moto3, on aura une course intercalée peut-être une course de moto électrique. C'est quand même plus intelligent entre guillemets que la Formule E, parce que là il y a une vraie correspondance, Jean-Luc.
Oui, ben voilà, c'est en prélude au vrai Grand Prix, j'ose dire, et on a bien fait, on a été malin chez Dorna, comme toujours, on a bien fait de créer cette sous-catégorie, j'ose le dire, avec 5 épreuves. J'espère que ça va pas amputer, en tout cas, le Grand Prix moto de quelques tours, il en était question, parce
c'est
que
vrai.
Ça, ce serait extrêmement dommage.
Ouais. Jean-Claude Ogrel, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution ?
Ah ben voilà, c'est l'air du temps, forcément c'est pour l'instant, j'ai tendance à dire, c'est pas ma génération, quoi. Ça m'excite pas, le bruit. Moi, j'ai besoin de tout ça, le bruit, les grands pilotes, un départ de Grand Prix, c'est quand même phénoménal. Le bruit d'un départ de Grand Prix, c'est, vous gardez ça dans votre tête toute votre vie. Alors évidemment, pour l'instant, je regarde ça avec un petit peu de recul. Après, à voir. J'irai voir. Avant de dire quoi que ce soit, j'irai voir. Mais c'est vrai qu'au départ, je suis pas à 100%, quoi.
Voilà, c'était les meilleurs moments de Motors en 2018. Merci Jean-Luc Roy.
C'est toujours un plaisir.
Bon réveillon.
Mais oui, excellent pour toi aussi.